Bonsoir, bonsoir à tout le monde, tout, à toutes et à tous. Donc c'est le retour de Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission donc de l'UCL, de l'Union Communiste Libertaire, qui reprend donc ses droits. Et on va évidemment continuer tout à l'heure par quelques informations après notre générique. À tout de suite. Bien rebonsoir donc à toutes et à tous, en espérant que vous avez passé des vacances excellentes, hein, malgré des canicules abominables. Donc c'est Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission donc de l'UCL, l'Union Communiste Libertaire. Ça sera tous les mercredis de 20h à 21h. On n'a pas changé d'horaire ni quoi que ce soit, ni de titre, ni de générique, avec notre fameuse cassette... qui date de...
Ah, aussi vieille que l'émission.
Voilà.
Aussi vieille que l'émission. Idées Noires, quand même, une des émissions les plus vieilles de Radio Canu. Puisque ça fait déjà 22 ans qu'on est à l'antenne depuis 1991.
Pas plus.
Sur ce 102.2 de Radio Canu.
Je crois que ça faisait 30 ans, maintenant. C'est non, pas... bah, 22 ans, ça nous ramène.
T'as raison. 32 ans, Daniel.
David, il faut oublier les vacances.
1994.
C'est le taf, hein.
J'ai jamais été très, très fort en maths.
Mais 1991. Allez, on est là, on est tous les deux, c'est pour ce.
Voilà. 1991 à 2023, ça fait 32 ans qu'Idées Noires est à l'antenne.
91 donc.
Nous, on est trop jeunes pour avoir connu les débuts, Daniel.
Toi, oui, moi, moins.
Ah, malheureusement. On est content de relancer cette nouvelle saison d'Idées Noires, te retrouver à l'antenne, l'émission du groupe local de l'Union Communiste Libertaire, tous les mercredis de 20h à 21h, comme tu l'as dit. On espère qu'on va tenir le rythme. Soyez pas surpris si parfois il y a des loupés, c'est les aléas de la vie militante et de la vie tout court. En tout cas, on va essayer d'être là le plus souvent possible. Et puis, on commence cette nouvelle saison d'Idées Noires avec une annonce qui nous tient particulièrement à cœur, puisque c'est la réouverture des activités de la librairie La Plume Noire, la librairie de l'Union Communiste Libertaire, librairie qui a pas bougé pendant l'été, hein, qui est toujours située 8 rue Diderot, sur les pentes de la Croix-Rousse, à deux pas de la place Colbert. Soit vous descendez les pentes, soit vous les montez à pied, soit vous prenez le bus numéro 6 qui s'arrête place Colbert, pas très loin de la librairie, pour vous y rendre. À partir de la semaine prochaine, à partir de ce week-end, la librairie rouvre ses portes le samedi de 15h à 19h. Non, Daniel, tu me fais signe.
Apparemment non, parce qu'il y a une manifestation apparemment. Vu que c'est le début évidemment de notre saison, donc 23-24, hein, 2023-2024 apparemment, donc non, je pense pas qu'il y aura une permanence, ou alors ça sera sur la fin de la manif évidemment, des fois, mais on l'annonce dans ces cas-là, donc pour une remontée collective sur la Croix-Rousse, aux 8 rue Diderot, quoi, voilà.
Bon, ça sera sinon à partir de la semaine prochaine,
oui,
que la librairie reprendra ses horaires habituels. On vous rappelle, le mercredi de 17h30 à 19h30,
c'est cela,
et le samedi de 15h à 19h. En attendant, la réouverture officielle, c'est demain, puisque demain il y aura un débat à la librairie La Plume Noire à partir de 19h, et qui sera suivi
d'un pot de rentrée,
le traditionnel pot annuel de rentrée de la librairie, histoire de se rencontrer, discuter un peu de la rentrée et des luttes à venir. En tout cas, c'est pour ça que La Plume Noire et le groupe local de Lyon, de l'Union Communiste Libertaire, vous invite demain, jeudi 7 septembre, à partir de 19h, à un débat autour de la présentation du livre qui s'appelle Terre de lutte, une présentation qui sera faite par son auteur, Romain Léantico, qui est lui aussi militant syndical et qui, à travers ce livre qui est paru aux éditions du Seuil, et ben, offre à travers cet ouvrage un véritable tour d'horizon du militantisme en France aujourd'hui et la diversité des luttes qu'on trouve sur les différents territoires qui vont, par exemple, de la lutte des paysans en Loire-Atlantique aux luttes anticolonialistes en Guadeloupe et en passant, bien sûr, par les luttes contre l'extrême droite à Lyon. Voilà, c'est des exemples de luttes qui sont décrites dans ce livre par des acteurs de celle-ci à partir d'un véritable travail de terrain où les Romains Genticou est venu rencontrer ceux qui, ici, là-bas, luttent contre les différentes formes d'oppression. Donc ça sera à partir de 19h, cette rencontre débat avec Romain Genticou autour de son livre Terre de lutte. Et puis à la suite de cette présentation, on vous l'a dit, il y aura la soirée de rentrée, le pot de rentrée de la librairie La Plume Noire et du groupe local de l'Union communiste libertaire, hein, qui permettra donc d'engager les discussions à la suite de la présentation et puis discuter des suites du mouvement social et des différentes luttes qu'on peut mener cette année. Et puis tout simplement, si vous voulez en savoir plus sur l'UCL et sur la librairie La Plume Noire. Donc voilà, ouvert à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus. C'est demain à 19h à la librairie La Plume Noire, ce débat Terre de lutte. Voilà, c'est l'annonce dont on voulait vous faire partager pour commencer cette nouvelle émission de cette nouvelle saison d'Idées Noires.
Eh oui.
Et puis on va la commencer directement en musique. Ça tombe bien, ça va donner le ton à cette année, puisqu'on va retrouver justement un morceau qui s'appelle La Rage, parce qu'en effet, nous, on a toujours la rage pour continuer à militer, pour faire que ça branle dans le manche et pour tenir le micro sur cette antenne de Radio Canu.
C'est parti. Voilà, voilà. Bon, bah, vous êtes de retour avec nous sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire. Donc, et on va attaquer un sujet, le premier.
Voilà, alors juste avant quand même, on a reconnu, c'était les Tagada Jones qui nous chantaient la rage. Et puis on a parlé que samedi, il y avait une manifestation à Lyon, et honte sur nous, on a oublié de l'annoncer.
Eh ben voilà.
Alors quand même, on va rappeler que si en effet la Plume Noire risque d'être fermée ce samedi et réouvrir ses portes normalement que la semaine prochaine, c'est parce qu'en effet ce samedi 9 septembre, il y a une manifestation à 14h Place Bellecour, qui est la marche pour la justice et vérité pour y dire, parce que ça fera pile 2 ans qui dit est mort, ou du moins a été assassiné le 9 septembre 2020 au mitard de la maison d'arrêt de Lyon-Corba, dans des circonstances plus que suspectes, qui nous permettent de se poser des questions, entre guillemets, sur cette mort et sur cet assassinat d'Idir, et que c'est pour demander la vérité, la justice sur ce décès que la famille et les proches d'Idir organisent avec différents collectifs de lutte contre les personnes mortes sous les coups de l'appareil répressif d'État, qui soit maton ou flic, organise cette marche-là. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a cette marche ce samedi 9 septembre à 14h, Place Bellecour. Et puis à 18h30 ensuite, il y aura la projection d'un film, repas et concert après la marche Justice et Vérité pour Edir, qui aura lieu cette fois-ci à l'île Égalité, voilà, pour faire un temps convivial après la manifestation. Ça, c'est le rendez-vous de samedi. Et puis on vous rappelle avant ça, demain soir, 19h, le débat à la librairie La Plume Noire, avec la rencontre et la discussion avec l'auteur du livre Terre de lutte. Voilà, ça c'était les petits rendez-vous pour être tout à fait complet. Et puis tu as raison, Daniel, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec, c'est la rentrée, on l'a dit, hein, c'est la rentrée sociale, on espère. C'est la rentrée des classes en tout cas. Et bien sûr, chaque année, au moment où des centaines de milliers de personnels de l'éducation nationale et des millions de collégiens, lycéens et enfants des écoles reprennent la route des abattoirs abrutissoirs de l'éducation nationale, comme disaient nos amis de Bonaventure à l'époque, et le gouvernement tente toujours...
Bonaventure, l'école libertaire de
l'île d'Oléron.
De l'île d'Oléron.
Justement, proposait une éducation alternative anti-autoritaire pour faire contrepoids à ces abattoirs abrutissoirs qu'il décrivait de l'éducation nationale. Tout le monde connaît l'état de déliquescence du service public d'éducation aujourd'hui, malgré les luttes qui sont menées par les personnels de l'éducation nationale. Et justement, afin de les passer sous silence, et au lieu d'évoquer les professeurs non remplacés, d'évoquer le manque d'infirmières scolaires nommées, d'évoquer les sureffectifs scolaires, la non-prise en charge, non-accompagnement des élèves à besoins particuliers, le gouvernement trouve toujours une raison pour éviter la question sociale et mettre en avant la question nationale, celle qui divise, celle qui oppose, celle qui permet de ne pas aborder les vraies questions, celle d'inégalité sociale et économique, et qui permet de jeter de la poudre aux yeux devant les véritables problèmes en créant des faux. Vous aurez compris qu'on veut dire quand même quelques mots de l'interdiction de l'abaya, cette nouvelle attaque qu'on peut qualifier de raciste et de sexiste du gouvernement Macron. Puisque Gabriel Attal, qui est le désormais nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui a remplacé Pape Ndiaye, qui avait été simplement pour amuser la galerie et pour faire illusion, alors qu'on sait très bien que c'était les équipes de Blanquer qui continuaient la démolition sociale de l'Éducation nationale. Et Gabriel Attal, lui, qui a fait toute sa scolarité dans le privé, aujourd'hui, il se permet de donner des leçons à l'Éducation nationale et il donne le ton dès sa prise de fonction avec l'interdiction des abayas dans les écoles. Alors, la question, c'est de quel droit se permet-il de décider de la tenue des jeunes femmes? Et puis la question est aussi, est-ce vraiment ça le véritable problème aujourd'hui dont souffre l'éducation nationale? On peut en douter.
D'un avis général, sûrement pas. En tout cas, si on écoute un peu tout le monde, les commentaires à ce sujet...
Bien sûr. Et puis combien de cas concrets de problématiques de prosélytisme religieux se cachaient derrière cet abaya? Je pense qu'il se comptait sur les doigts d'une main. On le sait, c'est pour ça que c'est une attaque raciste et sexiste, hein. Comme le rappelait la manifestation féministe qui a eu lieu à Aurillac le 26 août dernier, les femmes, elles n'ont pas, par exemple, le choix d'être torse nues dans ce pays. Hein, parfois, elles sont un coup trop couvertes, un coup, elles ne le sont pas assez. Un coup, c'est les conseillers principaux d'éducation dans les établissements scolaires et les proviseurs qui en fait prétendent contrôler la profondeur du décolleté ou la longueur du short des lycéennes. Et puis un coup, elles portent des vêtements qui sont trop longs, trop amples, ou alors qui symboliseraient leur soumission ou une appartenance religieuse anormale. On peut franchement se poser la question derrière tout cinéma, à quand la mesure de la longueur des robes à l'entrée des écoles avec un double décimètre. En tout cas, il s'agit évidemment d'une annonce raciste et islamophobe, puisque une robe longue est ou devient un vêtement islamique selon la personne qui la porte. On sait très bien que les lycéennes blanches, elles pourront continuer à porter des robes longues quand ces mêmes vêtements vendus dans des boutiques de mode portés par la camarade de classe musulmane ou identifiés comme telles, eh ben, elles se le verront interdites. Donc on voit très bien où se cache la discrimination. Et derrière, on ne peut que pointer du doigt l'obsession en fait de la société française et de son champ politique pour les vêtements des lycéennes noirs ou arabes, qui n'est pas nouvelle. Hein, il suffit de se rappeler les polémiques sur le port du foulard au lycée en 1989 ou à la loi qui a abouti à leur interdiction en 2004. On voudrait rappeler que l'abaya, au départ, c'est un vêtement traditionnel qui n'est pas forcément un vêtement religieux. Et quand bien même ça serait le cas, l'interdiction des signes religieux, en fait, est un dévoiement de la laïcité qui est censé protéger le droit de chacun à vivre ses croyances, y compris dans l'espace public. Et la pseudo-laïcité qui est prônée ici, ben, en fait, c'est un double standard parce qu'elle est convoquée pour exclure et stigmatiser, on pourrait dire, des lycéennes du système scolaire, mais elle est étrangement absente, par exemple, lorsqu'il s'agit, comme il y a l'année dernière, en 2002, hein, de lâcher 8 milliards d'euros de subventions aux écoles privées, et qui, on le sait, sont à 96% des écoles catholiques. Et là, où est la discrimination quand c'est l'argent public qui part dans le financement de ces écoles publiques? En fait, c'est un racisme décomplexé, hein, de la part du gouvernement, qui est affirmé une nouvelle fois et qui ne provoque en fait qu'une énième politique de rentrée pour, comme on le disait tout à l'heure, en fait nous empêcher de parler des vrais sujets, des vrais problèmes comme la dégradation de l'école publique ou par exemple les 3000 postes vacants d'enseignants à la rentrée 2023. Voilà, je pense pas qu'il y a 3000 lycéennes qui auraient posé problème sur le port de leur s'il y en avait une trentaine, c'était le bout du monde. Par contre, il y a bien 3000 postes vacants d'enseignants qui ne sont pas dans leur classe pour assurer l'égalité des droits à l'éducation pour tous les enfants. Du coup, on pourrait dire qu'il s'agit aussi d'un projet politique de ce gouvernement qui a pour but d'attiser la haine raciale pour mieux diviser les classes populaires, quand on sait qu'il a été contesté durant toute l'année dernière sur le front social. Et de notre côté, nous militants et militantes libertaires et anarchistes, ou qui réaffirmeront toujours notre athéisme et qui n'oublieront pas pour autant notre devise ni Dieu ni maître, et qui sont sans complaisance envers toutes les religions, quelles qu'elles soient, qui sont toutes des formes d'oppression et de domination, on peut que pour autant dénoncer les discriminations qui alimentent les fondements, les relents racistes dans la société et qui permettent de donner du grain à moudre à la droite et à l'extrême droite et à diviser les classes populaires et à éloigner les gens des véritables problèmes qui sont la question sociale et non pas cette question nationale. Et donc on ne peut que dénoncer cette mesure qui est une nouvelle mesure d'exclusion, une mesure raciste qui frappe une seule catégorie de population et une mesure sexiste aussi, puisque une nouvelle fois ce sont les femmes qui bien souvent sont les premières victimes de l'oppression religieuse et qui là se retrouvent aussi victimes double peine de l'oppression étatique. Voilà, c'est ce qu'on voulait dire sur le front de la rentrée des classes. Ne nous trompons pas de colère. La colère, elle n'est pas allée chercher du côté de la chasse aux sorcières qui porte la baïa. La colère, elle est bien apportée du côté de ceux qui organisent chaque jour un peu plus la destruction et la démolition sociale. Voilà, ça c'était sur le front de la rentrée des classes. Et puis, pas sur le front de la rentrée, mais on le sait, Hein, les vacances, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'en a pas la chance. Tout le monde n'a pas la chance de partir, de fuir la chaleur des villes pendant la période caniculaire. Beaucoup restent au boulot et puis beaucoup aussi essayent de parer les mauvais coups durant les mois d'été parce que le patronat, ça fait bien longtemps qu'il a compris que la trêve estivale, elle n'existait pas, que les licenciements, que les mauvais coups contre le droit du travail, et ben ils pleuvent contre les salariés. Et durant l'été, et ben il y a des gens qui se retroussent les manches et qui continuent à lutter, à s'organiser, à défendre leurs droits. Et Daniel, encore cette année, bah, c'est ce que tu vas nous rappeler à travers tes brèves sociales et syndicales.
Bah oui, j'ai travaillé pendant tout ce temps, en fait, pour effectivement picorer par ici, par là, des luttes sociales. Bah, il y en a pas mal. Donc, mais je vais pas commencer par une lutte, je vais commencer par un anniversaire, en fait, enfin, qui était une lutte, en fait, finalement. Alors, je sais pas si tout le monde se rappelle de juin 73, je pense pas que tu aies était encore de ce monde. Non, voilà, moi j'y étais. Donc juin 73, ben, il y a eu la lutte des LIP.
Eh oui.
Eh oui, ça fait 50 piges quand même, hein, 50 ans, un demi-siècle. Comme disait Johnny quand il a eu 50 ans, c'était un demi-siècle. Bon, bref,
comment,
c'est pas de Johnny.
Comme disait les LIP, on gère, on vend.
Je vais dire ça. Donc LIP démarrait donc, en juin 73, cette lutte à Besançon-Palante. Donc exceptionnelle occupation, exceptionnelle réorganisation du travail, exceptionnelle autogestion aussi avec des manifestations. Station qui amenait 100 000 personnes, 1 200 salariés menacés de licenciement pour 50% de l'effectif, réquisition donc de 25 000 montres, séquestration aussi de la direction. Quand même. LIP, ben, la production était en autogestion, je l'ai dit, organisée en assemblée générale. On fabrique, on vend, on se paye. C'était le slogan à l'époque pour 800 femmes, 500 hommes engagés dans cette bataille face au capitalisme. Charles Piaget était donc l'élu syndical de la CFDT et le porte-parole de ce mouvement. Et ben, je m'arrêterai là, mais je vous amènerai quand même à essayer de reprendre rapport de force donc sur le net. Pour y lire un grand texte justement à cette lutte des LIP en juin 73, ça fait 50 ans.
On peut rappeler d'ailleurs à ce propos qu'il y a un très beau film, un très beau documentaire qui a été tourné il y a quelques années, qui s'appelle, je crois, LIP, l'imagination au pouvoir, où ils ont retrouvé, qu'on avait projeté d'ailleurs lors de sa sortie à la plume noire, où ils ont retrouvé un certain nombre d'acteurs de cette période, dont Charles Piaget, qui est malheureusement aujourd'hui décédé, qui en effet était un animateur syndical de cette lutte, à l'époque où la CFDT se revendiquait encore autogestionnaire et n'avait pas fait la trahison de Nicole Notat en 1995. C'était une autre CFDT avant qu'on liquide les moutons noirs de la CFDT, justement, ces gens qui voulaient faire un syndicalisme non stalinien par rapport à la CGT, autogéré, qui portait les questions féministes, et dont ce que tu viens de nous rappeler sur la lutte de LIP a été une extraordinaire expérience.
Ah, c'était un monument dans les luttes sociales, quand même. Il y en a eu des monuments dans les luttes sociales.
Bien sûr, mais LIP incontournablement en fait partie.
Ah, bah oui.
Et puis rappelons que Charles Piaget, après, a été à l'initiative de AC, l'association Agir contre le chômage. Il a fait partie des gens qui ont, dans les années 90, ont lancé les premières associations d'organisation pour la défense des droits des chômeurs. Voilà, LIP, l'imagination au pouvoir, ça doit se trouver assez facilement sur la toile. N'hésitez pas à le voir, un très beau documentaire qui relate cette aventure que tu viens de nous conter, Daniel.
Ah, et puis un autre anniversaire aussi que je voulais pas oublier parce que moi, pour moi, il était c'était un camarade, quoi, tout bonnement. Il s'agit de Léo Ferré, qui est décédé donc le 14 juillet 1993. Ouais. Exactement. Donc, comptez, ça fait combien ? 50 ans ?
Non, 30 ans.
30 ans. Alors, faut bien que je dise une petite bêtise de temps en temps. Allez, Léo, on pense à toi aussi. Donc, maintenant, je vais reprendre un peu les luttes. Alors, en ce mois d'août, parce que, j'ai du mois d'août, j'ai du mois de juillet, j'ai du mois de juin, je sais pas comment je vais tortiller tout ça. Pas ce soir, en tout cas. Donc, Marseille, ça, c'est un des morceaux de ce mois d'août, quand même. C'était le premier du mois d'août, avec la société Laser Propreté. Propreté, qui est une entreprise du nettoyage qui officie en gare de Marseille. En juin déjà, la direction a essuyé une grève pour non-paiement des salaires et conditions de travail. Elle est rebelote donc en ce 1er août. Plusieurs dizaines de travailleurs, travailleuses ont stoppé l'activité en gare Saint-Charles à Marseille, énervés par le comportement de leur direction qui ne remplace pas les départs en congé. Et le matériel aussi qui est absent et qui est non renouvelé. Par contre, elle s'est empressée, cette direction, de porter plainte et contester la grève. Les grévistes donc ont reçu l'aide de Solidaire, du syndicat hein, Solidaire, et rejoints par leurs camarades également du métro marseillais et du tram marseillais. Cette direction donc Laser Propreté est vraiment une bande de fripons. Selon les grévistes, elle ne payait ni les heures supplémentaires des week-ends et jours fériés, ni les primes diverses dans ce métier. Et enfin, après cette quinzaine de luttes, le 17 août, la grève cessait après des accords avec la direction et le syndicat CAT, CAT Nettoyage, et l'intersyndical, sans préciser les avancées apportées donc pour les travailleurs et travailleuses. Alors des petits points de détails quand même qui sont importants. Alors d'autre part, le tribunal de Marseille a débouté la société Laser et considéré que la grève était parfaitement licite et légale et reconnaît donc les fautes de la direction. Ce n'est pas le cas par exemple de Clément Beaune, ministre des Transports. Qu'est-ce qu'il faisait là, le ministre des Transports? Je vous le demande. Mais c'est bien simple, c'est que ça touche la SNCF et que le maire de Marseille avait ordonné donc à la SNCF de venir faire le nettoyage. Donc c'est allé dans le sens donc de Laser, enfin il est allé, hein, M. Beaune, dans le sens de la société Laser Nettoyage, en admettant, selon la presse, que les salaires étaient payés. Alors à mon avis, il a dû arriver après la bagarre. Alors juste un petit mot aussi sur ce syndicat CAT, CAT, donc c'est la Confédération Autonome du Travail, une émanation donc je dirais de la CGT à la fin des années 40, donc ça date de 47-48, et qui a été fondée donc en 1953. Voilà. Tour maintenant en Indre-et-Loire, nous sommes au CHRU, c'est un centre hospitalier régional universitaire, au doux nom, au patronyme de Clocheville. C'était ce 3 août, 25 salariés de la réanimation pour enfants rassemblés devant l'établissement pour dénoncer les conditions de travail, manque de personnel, tous services confondus, reprochant à l'administration sa recherche d'économie au détriment des soins et des personnels. La grève a été acquise, donc actée du moins en Assemblée Générale et à l'unanimité. À la Réunion, donc l'île de la Réunion, début août toujours, ce sont les pompiers, donc colériques, en colère, quant à leur situation professionnelle. Grève à Saint-Denis, puis à Saint-Pierre, et plus tard à Sainte-Marie, ben oui, c'est tout dessein, pour pas une, pas deux, mais des dizaines d'embauches. Ils dénoncent le mépris incendiaire et irresponsabilité de la direction du SDIS du coin, avec 17 ans de promesses, sans rien, sans infrastructure et matériel et conditions de travail. La bonne nouvelle du patron, enfin le patron du SDIS, c'est une annonce, hein, un centre moderne dont le premier coup de pelle et de pioche en 2024. À La Réunion, on travaille encore avec des pelles et des pioches, c'est dire la pauvreté des moyens. Sordide et inadmissible, je dirais. On peut qualifier ça comme ça quand même, même que ça mériterait d'autres mots plus durs quand même. C'est un travailleur intérimaire de 70 ans qui est mort sur un chantier à Bazouges-la-Pérouse en Ille-et-Vilaine après une chute de 4 mètres. L'ouvrier n'avait pas de protection. C'est l'entreprise Rio, leader français de l'escalier sur mesure. Le procureur adjoint de Rennes s'interroge sur la précarité des conditions d'intervention sur le chantier évidemment de ce travailleur. Pourrait-il s'interroger aussi sur l'âge de ce salarié intérimaire ? 208 accidents mortels au travail depuis le début de l'année 2023, 645 en 2021. Je n'ai pas encore les chiffres de 2022. À Lyon, depuis début août, c'est une grève dans les boutiques Apple Store, notamment à Lyon, et cela tous les samedis, envoyé d'un clic par la CFDT. Les revendications exigent le dialogue avec les chefs afin de régler les questions d'effectifs, de salaire. Depuis le 5 août, la CFDT POM, comme ça qu'elle s'appelle, n'obtient aucun résultat satisfaisant sur les revendications, la direction de la filiale France faisant la moue. Donc à Lyon, la Pardieu, la grève est bien en place au 26 donc, août, de même à Confluence depuis le 12 août. Seule réponse enregistrée par la direction, donnée par la direction, on ne peut plus recruter. D'autres magasins pourraient suivre donc le mouvement, ce mouvement lyonnais. Saint-Junien, c'est en Haute-Vienne, le 10 août, avec un ras-le-bol qui a nécessité un deuxième rassemblement des personnels et d'usagers et d'usagères avec la CGT. C'est au centre encore hospitalier. Colère à propos des services d'urgence régulièrement fermés en juillet et en août par absence de médecins. Les patients et patientes sont priés d'aller se faire recoudre à Limoges, au CHU, où le surbookage est de mise et son cortège de brancards alignés dans les allées, qui faisait penser donc au départ en vacances à cette époque, évidemment, avec les bouchons sur les autoroutes. Au 10 août, toujours avec une grève de salariés du tourisme. Allez donc chercher où se nichent les grèves. Et c'était en Dordogne, aux Aisy exactement. Commune charmante bourgade, j'irais, et trois sites quand même de visite. Conditions de travail, plus précisément celui du samedi avec la CGT qui était sur le coup. Donc 5 jours de grève, la décision revient entièrement à la direction et qui souhaiterait donc la fermeture hebdomadaire obligatoire le lundi ou le vendredi, comme sur les sites qu'elle gère, une centaine quand même, sauf Oesi où finalement un accord de grévistes en Assemblée Générale et la CGT a été décidé de stopper donc le mouvement le 15 août et de reporter les négociations en novembre. Une enquête sur les risques psychosociaux est en cours dans l'établissement public qui gère donc le Centre des Monuments Nationaux. À Montpellier, donc dans l'Hérault, avec un sous-effectif chronique, voilà le sujet qui a déclenché une grève au sein des personnels, enfin on dit des agents, hein, en charge de l'alimentation électrique à la SNCF du coin, depuis une semaine, c'était au 18 août, une grève non vue, une grève non visible par le public, mais quand même 80% des agents qui a suivi ce mouvement pour obtenir des embauches, parachevées aussi par un rassemblement devant le poste de commande de l'alimentation du réseau et devant la direction régionale avec la CGT. 50 sous-stations en Languedoc-Roussillon, tenu par seulement 60 salariés, c'est insuffisant. Et puis, pour terminer, et en terminant cette première page, je vais terminer par un début septembre. Pourquoi pas ? Donc, septembre, donc, qui a à peine démarré, et déjà une lutte parmi d'autres, hein, évidemment, ça va de soi. C'est au Lardin-Saint-Lazare, c'est en Dordogne, avec une papeterie, la papeterie Condat, donc un fleuron dans le domaine, d'après ce qu'on peut nous raconter. Ça n'empêche aucunement un plan social, évidemment. 187 emplois menacés sur la chaîne du papier couché, une spécialité de la maison. La CGT est sur le coup, encore, après une semaine de grève. Tout le monde pense donc à une bouée de sauvetage quand même, la personne du ministère de l'économie, courage. Alors c'est eux qui le disent du moins, et c'est pour le 11 septembre prochain. Et selon la CGT qui a reçu donc une offre d'aide de François Hollande, pardon du peu encore une fois, le syndicat, donc quelques temps plus tard, l'intersyndicale aussi, recevait un appel de Bercy. C'est beau, la solidarité de classe. Donc c'est pour le 11 septembre prochain. On tâchera de jeter un petit coup d'œil là-dessus aussi.
Allez, on va faire une nouvelle pause musicale dans cette émission Idées Noires. Enfin, tu nous réserves une deuxième page de brève sociale et syndicale, Daniel, pour un peu plus tard. En attendant, à la mi-temps de cette émission, puisqu'il est bientôt 20h30 sur cette antenne de Radio Canu, vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission du groupe local de l'Union Communiste Libertaire, l'UCL, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h. Eh ben, on va se faire un petit plaisir, comme c'est l'émission de reprise. Tiens, on va retrouver. Notre générique à Las Barricadas. Alors pas sur notre vieille cassette qui date de plus de 30 ans, mais une nouvelle version qui a été enregistrée il y a quelque temps en Espagne par Juanito Piquete. Juanito Piquete sur un disque qui s'appelle Clásicos Revolucionarios, le volume 2, un disque qui est sorti en soutien à la CGT, à la CNT de Catalunya, au local et à la Fondation Salvador Seguí. Le morceau qu'on retrouve, c'est tout simplement à Las Barricadas.
C'est la numéro 6, c'est ça?
C'est ça, c'est le sixième et dernier morceau de ce petit album.
Allez, c'est parti.
Negres tempestes agitant els aires, núvols sinistres enceguen l'esguard, encara que ens esperi l'amor més cruenta. Contra l'adversari haurem de lluitar, l'única riquesa és la llibertat, i cal defensar-la amb coratge i fe. Alta la bandera revolucionària que sent repòs ens mena el triomf del nostre anhel. Alta la bandera revolucionària que sent repòs ens mena el triomf del nostre anhel. Dempeus tot el poble, tots a la lluita, esfondrem en fúria la reacció. A les barricades, a les barricades, per la victòria de la Confederació. A les barricades, a les barricades, per la victòria de la Confederació. Dempeus tot el poble, tots a la lluita, esfondrem en fúria la reacció. A les barricades, a les barricades, per la victòria de la Confederació. A les barricades, a les barricades, per la victòria de la Confederació.
Allez, bonsoir à tout le monde. C'est toujours Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu jusqu'à 20h, à 21h, pardon. Et ensuite, il y aura une excellente émission. Et vous êtes à l'écoute de l'UCL, donc l'Union Communiste Libertaire. On attaque une seconde ou troisième page, je ne sais plus où on en est.
Peu importe. En tout cas, troisième page, après avoir fait le point sur la rentrée des classes, sur les luttes sociales et syndicales de cet été, on va revenir un petit peu sur le sentiment d'impunité de la police, ces crimes racistes qui sont des crimes d'État, et le fait que, bien évidemment, la police, elle protège les siens. On se rappelle, bien sûr, des émeutes qui ont défrayé la chronique au début de l'été, suite à la mort à l'assassinat du jeune Naël. Malheureusement, on s'en doutait, Naël, c'est pas la dernière bavure policière, si le terme de bavure est encore propre à désigner ces assassinats. Puisqu'on vous le disait, alors que le meurtre de Naël reste encore présent en fait dans toutes les têtes, la violence de la police, elle s'est de nouveau illustrée cet été dans une affaire sordide qui a animé les médias durant un peu tout l'été, puisque cette fois-ci, c'est un jeune homme, Eddy, qui s'est retrouvé gravement handicapé suite à un tabassage en règle par 4 policiers dans la nuit du 1er juillet dernier, lors du déchaînement de violence de la police pour justement mater ce qu'on appelait les émeutes urbaines, que nous, on préfère appeler des émeutes sociales. Eddy et un de ses amis, en fait, cherchaient tout simplement à rejoindre Marseille en sortant du travail, malheureusement pour eux, ils ont croisé des agents de la BAC, et malheureusement pour eux, Eddy a le malheur d'être arabe dans un pays où la police, et pas seulement elle, malheureusement, est raciste. Et il a reçu du coup un tir de flashball dans la tête, Et il a indiqué par la suite que les policiers se seraient mis à plusieurs sur lui pour le frapper à coups de poing et de matraque pendant de longues minutes. Eddie a perdu une partie de son crâne lors de l'opération chirurgicale qui lui a permis de rester en vie. Il a eu la mâchoire brisée, il a eu l'œil gauche gravement endommagé. Plus de 60 agrafes ont été utilisées pour consolider sa boîte crânienne et il devra être réopéré dans 3-4 mois. Et les médecins lui ont dit qu'ils avaient l'impression d'avoir opéré un mort, tout simplement pour décrire l'état dans lequel il est arrivé au bloc opératoire. Alors, outre l'extrême violence qu'on vient de décrire et la profonde injustice qui sont contenues dans ce passage à tabac d'une personne pour la seule raison qu'elle est identifiée comme arabe, et ben ce qui nous indigne et ce qui nous alarme aussi, c'est le soutien sans faille qui a été apporté aux agresseurs par leurs collègues policiers, comme lorsque les prévenus ont été applaudis à leur sortie de garde à vue, et ce malgré les preuves accablantes des faits qu'on vient de décrire. Et puis plus encore, c'est la complaisance de la hiérarchie, du préfet au ministre, en passant par le directeur général de la police nationale, la DGPN, qui, face à des méthodes pourtant manifestement illégales, comme le recours à des RM maladies factices, ont été totalement complaisants, à l'image du Premier ministre, qui, loin de recadrer ses troupes, du ministre de l'Intérieur, Darmanin leur a même concédé des avantages supplémentaires, la garantie de l'anonymat des policiers, le maintien des primes lors de la suspension d'un agent et surtout l'exemption de la détention provisoire. En fait, on se rend compte que le régime d'impunité déjà bien installé de la police aujourd'hui se trouve renforcé de façon éclatante dans ce pays. D'ailleurs, la NUPES, à l'exception quand même notable du PCF, les rouges-bruns nationalistes habituels, a quand même exprimé son inquiétude devant la dégradation de ce qu'on appelle l'état de droit et de la démocratie, ainsi que son souhait de voir rétabli l'ordre républicain dans la police. Autant vous dire que c'est particulièrement inquiétant quand un parti qui prétend au pouvoir s'inquiète et souhaite voir l'ordre républicain être rétabli dans la police. On peut se demander donc de quel ordre il règne actuellement dans la police. En tout cas, si cette réaction elle témoigne d'une évolution positive sur la question des violences policières de la gauche institutionnelle, parce qu'on a quand même le souvenir cuisant du soutien qui avait été apporté par plusieurs dirigeants et partis de gauche à la manifestation factieuse du 20 mai 2021, qui disait combien on partait de loin sur ces sujets lorsque les policiers avaient manifesté devant l'Assemblée nationale avec un certain nombre d'élus de gauche dans leur rang. La formulation elle reste quand même trompeuse, parce que comme on le disait, souhaiter rétablir l'ordre dans la police, c'est prétendre que c'est ce genre de violence n'est pas intrinsèque à l'institution policière, et c'est oublier que la violence policière, elle fait partie intégrante de ce qu'ils appellent l'ordre républicain. Alors pour notre part, nous militants communistes libertaires, militants anarchistes, on réaffirme qu'une institution se juge à ce qu'elle produit et non à ce qu'elle prétend être. Et lorsque depuis des décennies, les soi-disant erreurs, les soi-disant bavures se multiplient, lorsque, loin de donner lieu à des excuses, à des remises en question et condamnations, elles ne produisent qu'une solidarité inconditionnelle envers ceux qui les commettent et le renforcement de l'impunité, il faut tout simplement en déduire que l'institution fonctionne précisément comme il est prévu, que si les policiers prennent comme une trahison le fait que la justice puisse les mettre en cause, c'est que pour eux, ces faits s'inscrivent finalement dans la mission qu'ils prétendent accomplir, dans les consignes de leur hiérarchie qui sont très claires et qu'aujourd'hui, sur lesquelles on n'a jamais eu aucun doute, qui sont celles de parquer les populations des quartiers populaires, traquer les jeunes perçus comme issus de ces quartiers, maintenir un ordre raciste et colonial dans ces mêmes quartiers. Et le meurtre et le passage à tabac, ce sont que des manifestations les plus extrêmes de ce continuum de la violence qui est exercée pour la police. C'est pour ça que nous, militants de l'UCL, de l'Union communiste libertaire, on affirme haut et fort notre plein soutien à Eddy, à sa famille et à toutes les autres victimes des institutions policières, judiciaires et carcérales. On revendique bien sûr la dissolution des syndicats de police factieux, la fin de l'impunité policière, la dissolution de la BAC et de la Brave M, qui sont des véritables milices de violence. Ces mesures, qui pour nous sont des mesures d'urgence, nous apparaissent comme nécessaires, et elles ne peuvent être que le début d'une lutte effective contre le système policier et judiciaire. Et en fait, c'est seule la constitution d'un véritable rapport de force populaire, hein, par le biais de ce qu'on appelle une auto-organisation dans les quartiers populaires et au-delà, qui pourra permettre de combattre les violences et la domination étatique et policière. Voilà, et tant que ça ne sera pas fait, on ne pourra que faire résonner encore une fois ce slogan « Pas de justice, pas de paix », comme on vous le rappelle. Il résonnera certainement samedi dans les rues de Lyon à l'occasion de la manifestation à 14h place Bellecour. « Justice et vérité » pour Edir, qui a été assassiné, lui, il y a 2 ans, au Mitard, au quartier disciplinaire de la prison de Corba. Voilà, sur le front des violences policières, malheureusement, qui ne cesse de s'aggraver et d'être une expression de la violence sociale et de la violence d'État. On enchaîne avec une nouvelle page de lutte sociale et syndicale, Daniel.
Ah ben bien sûr.
Acte 2.
Je suis prêt, acte 2, oui, comme tu dis. Donc on va faire un petit tour sur le mois de juillet quand même, parce qu'il y a bien de choses qui se sont passées. Alors je dirais que le morceau de mois de juillet, parmi tous les morceaux évidemment que je peux essayer de trouver, il y a celui-ci à Elkirch, c'est dans le Bas-Rhin, avec une reprise en 2022 après un redressement judiciaire, l'entreprise Clestra, 300 salariés. C'est une fabrique de cloisons. Alors précisément, en cette fin d'année 2022, une bataille a été menée à bien, d'ailleurs, pour les salaires, et obtenue donc une augmentation de 65 euros pour tous et toutes, et des primes. Youpi ! Youpi ! Sauf que depuis le groupe Gestia, qui est le repreneur de cette entreprise, mène et crée un climat de vengeance empreint de menaces de licenciement et même de fermeture. Le 3 juillet, un licenciement d'essai, je dirais, pourquoi pas, oui, point d'interrogation, visant un salarié pour utilisation du téléphone pendant sa pause. Son téléphone personnel, hein, j'entends. Hein. Donc, débordement du vase de la colère, grève et atelier à l'arrêt. Au 20 juillet, 3 semaines grévées et médiation de l'inspection du travail. Pourquoi ? Eh bien, la direction, qui a mal digéré, souhaite engager des poursuites judiciaires. On a sorti quand même dans cette direction le rouleau compresseur, le bulldozer, tout le matos enfin de la répression patronale. La grève à cette date a été votée en Assemblée Générale pour durer, pour 1 mois au 4 août. Les salaires de juillet n'ont pas été payés. Les grévistes appelaient au soutien solidaire. Et il y a eu une manif le 25-07 à Strasbourg avec une centaine de personnes. Donc les manœuvres de la direction cacheraient un plan social, selon les grévistes et la CGT, qui déclarent que les conditions de travail sont mauvaises depuis 8 mois. Gestia est un groupe familial, encore, hein, j'ai une dent contre les groupes familiaux, moi c'est terrible, donc géré par les frères Jaco. Après 2 mois donc de grève, un rassemblement de 300 personnes a été réalisé donc à l'usine même, et je crois bien que ça dure. Ils ont eu la visite aussi de pas mal de d'encravatés, gilets, costumes 3 pièces, évidemment. Dans ces cas-là, ça fait briller un peu tout le monde. Et puis ils ont eu aussi la visite de la secrétaire de la CGT, Madame Binet. Grenoble, maintenant, l'association d'aide à domicile, c'est-à-dire l'ADPA, des personnes âgées et en situation de handicap, est en mauvaise posture. C'était le 19 juillet. Elle a été placée en redressement judiciaire. Une centaine de personnes à l'appel des syndicats a assiégé le conseil départemental qui est le financeur de l'asso à 85% de cette association à 85% et refuse toute aide supplémentaire pour éponger 4 millions de déficits. Donc, ça fera que 2500 bénéficiaires des services sont menacés de perdre toute aide apportée par l'ADPA, et les quelques 526 salariés qui retrouveront donc soit Pôle emploi ou France Travail, qui doit, je sais pas si c'est fait d'ailleurs, NAE qui dénonce les conditions de travail, les salaires pauvres, les horaires chaotiques. À noter aussi l'absence de l'ARS, l'Agence régionale de santé, autre financeur de cette association. Et le rendez-vous, il est pour ce mois-ci. Saint-Hermine en Vendée, prétexte pour fermer un établissement, c'est pas compliqué. Le volailler Bodin et Fils, encore un groupe familial, sacré bon son de bonsoir. Mais on sonne d'où, nous donne donc la recette. Coût de production exorbitant. La grippe aviaire. Le bio, ça ne fonctionne plus. Blanc, 88 licenciements d'ici octobre. Bodin, c'est le groupe Galliance, qui est en même temps du groupe Terena. N'en jetez plus. Ça se dilue dans le nombre. 5 milliards en chiffre d'affaires, 12,5 millions d'euros de bénéfices. Faut pas hésiter pour consolider donc tous ces avantages patronaux. Le 18 juillet, une première mobilisation et on attend la suite. Alors, des postes de renseignement, de remplacement, il faut le dire, de remplacement ont été proposés à 13 salariés à Ancenis, donc à 1h30 en bagnole. Alors, que demande le peuple ? Évidemment, des voitures électriques. Alors, pas des solutions croupions, bien sûr, mais la révolution et un PSE donc acté par les syndicats. C'était le 26 juillet. Voilà comme des fois ça tourne en autre boudin. Maintenant, le département de la Mayenne et aussi, je dirais, les méfaits de l'ARS du coin encore, sous forme d'une annonce, les services d'urgence, ils sont au nombre de 3, seraient fermés chaque nuit du mois de juillet. Alors, explosion de colère ici aussi de l'intersyndicale et des associations d'usagers et d'usagères qui ont appelé à une manifestation le 8 juillet à Laval. 300 personnes en direction de la préfecture où a été reçue une délégation avec des arguments. Mais est-ce que cela est bien suffisant ? À Grenoble encore, donc c'est une colère au CCAS, et c'était le 5 juillet, et dans les crèches, elles étaient 50 salariés titulaires ou précaires pour protester de leurs conditions de travail dues à un manque d'effectifs touchant les 27 établissements de la ville. La précarité a été évoquée, le réaménagement des horaires, le dépassement du temps de travail, le matériel aussi, comme du savon, ça manque. Alors réponse, la mairie ne peut rien faire. Du moins pour les embauches ou même restreindre le nombre d'enfants. Voilà des solutions qui vont bien. Je continue avec une grève, mais où vont se nicher, comme je disais tout à l'heure, les luttes sociales, notamment celles des travailleurs sans papier. Eh bien, où cette fois ? C'est chez Emmaüs. Chez Emmaüs. Ici, le 4 juillet, à Saint-André-les-Lille, dans le Nord, où le travail, la durée est de 5 jours hebdomadaires, salaire 200 euros mensuels, gîte et couvert offert par la maison de Pierre Labbé, qui a la direction fait pression pour éviter les arrêts en cas de maladie ou de blessure. Mais oui, comme de tout bon patron de chez Tartampion, les congés 2 semaines par an. Les travailleurs sans papier dénoncent aussi le mépris à leur encontre. Ils se sont donc mis en grève ce 4 juillet pour une régularisation pleine et entière pour tous et toutes. Je suppose qu'ils attendent depuis 3 ans, voire 5 années, mais voilà, on croit rêver. La direction et l'État leur a fait comprendre qu'elles ne feraient rien pour leur dossier. Les conditions de travail sont aussi en question pour la vingtaine d'entre eux qui dénoncent ces pratiques chez les compagnons d'Emmaüs, bien entendu. Une enquête est en cours pour traite d'êtres humains par le parquet de Lille. Alors, il y a un soutien quand même effectif de la CGT, une banderole au dépôt qui nous indiquait « Emmaüs, il y en a marre, l'esclavage, c'est fini ». Alors, cette fameuse halte Saint-Jean, donc, comme on l'appelle, c'est une enquête de mai pour travail. Il y a une enquête donc, sur eux pour travail dissimulé et traite d'êtres humains. Travailleurs solidaires et non salariés, c'est une loi de 2008 de Martin Hirsch au service de Sarkozy à cette époque, c'est-à-dire des droits tout à fait à minima. Je rappelle que Martin Hirsch a été le président de Emmaüs aussi à un moment donné. Vénissieux maintenant qui cherche un repreneur pour un centre hospitalier de Vénissieux, dont un établissement d'accueil pour personnes dépendantes. Alors, triste dénouement pour ce centre mutualiste dont le redressement judiciaire a été prononcé le 3 juillet. Le gérant de la politique de santé, donc l'ARS, a refusé de recevoir les représentants et représentantes syndicaux et du personnel du centre, les Portes du Sud, c'est son nom, qui risque donc de fermer. Une centaine de personnes, soignants et soignantes, ont protesté avec des Vénitiens, des Vénitiennes, au siège de l'ARS, c'était le 6 juillet. Des actions ont été discutées pour l'été et s'opposer donc au rachat de l'hôpital. À cette date, donc le 6-07, l'ARS avait du sparadrap donc sur le bec. Et tant pis pour l'UMGEGL, c'est l'Union Mutualiste de Gestion des Établissements du Grand Lyon. Et l'EHPAD également, le Solidage, c'est son nom, l'EHPAD, avec 530 salariés pour l'ensemble de cet établissement, pour une population ultra fragile, prise en charge par l'établissement. 30 000 personnes prises en charge par les services, tous les services confondus, une catastrophe sur la santé des habitants et habitantes de cette région sud de Lyon qui se prépare si évidemment qui évidemment s'il y a un problème évidemment de rachat et tout ça. Alors j'ai cité quand même les localités en question, entre autres il y a Vénissieux, donc Fézin, Saint-Fond, Corba, et puis je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Est-ce que je continue ? Oui, j'en ai encore une qui est petite. C'est à Rougegoutte, c'est dans le territoire de Belfort, avec une grève qui a démarré donc fin juin, et c'était au mois de juillet, donc le déroulement. La prime d'intéressement passée au régime minceur, c'est chez Motte Terson. Motte Terson SMRC, c'est un équipementier de Stellantis, donc le consortium Stellantis. Je ne vais pas encore faire une présentation de cette boîte, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Donc une grève avec une proposition de la direction à 720 € brut, c'est ça ou rien pour la fin du conflit naissant. Alors quelques jours quand même, la CGT et FO ont finalement paraffé l'accord avec une reprise de la production de tableaux de bord pour éviter l'arrêt des montages chez le constructeur, donc Stellantis, c'est PSA, entre autres, Fiat aussi. Donc Stellantis, dont les bénéfices augmentent à une allure record, 37% au premier semestre, près de 11 milliards d'euros en chiffre d'affaires, à plus de 12% de mieux, 98 milliards, 4,2 milliards remis gracieusement aux actionnaires en 2022. Et puis Tavares, alors lui, c'est même pas la peine d'en parler, c'est le chouchou. Il y a 6 000 emplois quand même, faut le signaler, qui ont été supprimés en France en 5 années et 130 000 dans le monde en 2 années. Voilà. Joli monde dans lequel nous vivons et qui se prépare à mieux.
Voilà, en tout cas, une page bien complète de ce qui s'est passé cet été sur la question sociale et la question syndicale. Cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire, touche à sa fin. Avant de se séparer, on va quand même vous rappeler le rendez-vous essentiel que pour nous qu'on vous a communiqué en début d'émission. C'est demain soir, réouverture officielle de la librairie La Plume Noire, la librairie de l'Union communiste libertaire, sur les pentes de la Croix-Rousse, aux 8 rues d'Hydro. Et demain soir, La Plume Noire vous invite donc jeudi 7 septembre à 19h à une rencontre débat autour de la présentation du livre Terre de lutte par son auteur Romain Genticou, un livre qui est paru aux éditions du Seuil et qui offre à travers un véritable travail de terrain, un tour d'horizon du militantisme en France et la diversité des luttes qui sont menées sur le territoire. Si vous voulez en savoir plus, venez rencontrer Romain Genticou qui va vous présenter son livre Terre de lutte, demain à 19h à la librairie La Plume Noire. Et puis à l'issue de la présentation, eh ben, il y aura le pot de rentrée de la librairie La Plume Noire, l'occasion de discuter sur l'année à venir, les luttes, et puis d'en savoir plus pour ceux qui le veulent sur l'UCL et la librairie La Plume Noire. Voilà, c'est le rendez-vous de demain. En attendant, on vous donne aussi rendez-vous mercredi prochain, 20h, sur 62.2 de Radio Canu, pour une nouvelle édition d'Idées Noires.
Allez.
Et moi, je vous retrouve tout de suite après notre générique.
Ah bah oui, il faut pas
pour
oublier
la bande-son de nos révoltes.
Allez, c'est parti. Salut.